Les podcasts de l'Institut de France. L'entretien de la semaine. Rencontre avec une académicienne.
Que peut nous apprendre une physicienne sur la manière dont nous raisonnons? La réponse mérite toute notre attention dans une époque où la confusion entre opinion et fait donne à certains le sentiment d'un véritable affaiblissement de notre vigilance intellectuelle. Ça tombe bien, Catherine Bréchignac est physicienne, secrétaire perpétuelle honoraire de l'Académie des sciences et directrice de recherche émérite au CNRS. Elle publie cette année « L'Odyssée de Lucas face au naufrage de la raison », un livre dans lequel elle revisite les grands héritages de Platon, Galilée ou encore Descartes pour éclairer les défis de notre époque. Son récit suit le parcours d'un personnage qui grandit, doute et apprend. Bonjour à vous, Catherine Bréchignac, merci d'être au studio de l'Institut avec nous.
Bonjour.
Alors, vous êtes physicienne, comme je le disais, mais ce livre, L'Odyssée de Lucas, ne parle pas véritablement de physique à proprement parler, plutôt de la manière dont chacun de nous apprend à exercer sa raison. Pour ce livre, pour cette publication, vous avez ressenti le besoin de sortir du champ scientifique pur et de vous adresser à tout le monde ?
Oui, ça fait déjà plusieurs fois que dans mes livres précédents où j'essayais de sortir du champ scientifique pur, tout d'abord parce que j'aime la philosophie et que j'en ai quand même fait, et deuxièmement parce que je trouve que pour être complet, il faut avoir un double regard, le regard évidemment de scientifique, celui que j'ai, et celui de quelqu'un qui réfléchit, qui pense, et plutôt du regard d'un philosophe.
Alors, vous parlez dans le titre de « Naufrage de la raison », et c'est un terme volontairement fort que vous avez choisi. Qu'est-ce qui vous fait dire que ce que nous vivons n'est pas seulement une période agitée, mais une véritable rupture dans notre rapport au réel ?
Je ne sais pas si on peut dire qu'on vit une rupture par rapport au réel, mais on a le virtuel qui prend de plus en plus de place. Le réel est toujours présent. On ne peut pas s'empêcher d'être dans le réel, mais on mélange le réel et le virtuel, et en particulier, on mélange tout. On mélange le vrai, le faux, on mélange le bien, le mal, on mélange tout. Tout est complètement mélangé, il n'y a plus, je dirais, de distinction, et la raison s'étiole complètement. Alors, c'est ce que je dis dans mon livre, ou elle s'étiole, ou elle se sclérose. C'est-à-dire qu'en fait, les deux reviennent à peu près au même, puisque dans un cas, on perd la raison parce qu'elle disparaît. On mélange, par exemple, science et opinion. La science n'est pas une opinion. L'opinion, c'est autre chose. La science, il y a une certaine logique, une démarche scientifique est indispensable. Et puis, de l'autre côté, la raison se sclérose. On raconte toujours les mêmes choses et les gens utilisent toujours les mêmes paroles et ne sortent pas, ne doutent plus. On n'a plus de doute. On veut des certitudes aujourd'hui. On veut tout doit être certifié. Ça doit être blanc ou ça doit être noir. Et comme on n'arrive pas à avoir de certitudes, les gens jettent tout.
Alors là, je m'adresse à la scientifique que vous êtes. Cette crise de la raison dont vous parlez, elle se traduit aussi par une montée de la méfiance envers les faits scientifiques. Est-ce que c'est votre impression? Vous l'avez constaté?
Oui, elle conduit à une méfiance des faits scientifiques. Les faits scientifiques sont les faits. Les faits, on ne peut pas changer les faits. Quand vous observez quelque chose, vous l'observez. Vous n'allez pas commencer à inventer ce que vous n'observez pas. Ou alors, vous avez une imagination, vous partez dans l'imaginaire. Mais quand vous êtes dans le réel, les faits scientifiques sont les faits scientifiques. Ensuite, il faut les expliquer. Et pour les expliquer, il nous faut une méthode scientifique. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on observe, on fait une hypothèse, on se dit... Oui, voilà, c'est peut-être comme ça que ça se passe. Ensuite, on fait un calcul, on a des résultats, on fait des mesures, on compare nos mesures au calcul et on dit, bon, c'est vraisemblablement, cette hypothèse est bonne ou cette hypothèse n'est pas.
On vérifie toujours les hypothèses.
On vérifie nos hypothèses. Mais ce qu'il faut quand même savoir, c'est que l'hypothèse, si elle a une valeur explicative, elle n'a pas toujours valeur de vérité. Donc, on remet en doute ce que l'on fait régulièrement. Parce que la science se construit comme un puzzle avec des pièces, le cœur, vous construisez d'abord le cœur, puis ensuite, petit à petit, vous mettez les pièces autour. Et les pièces autour, c'est la face vis-à-vis de l'inconnu. L'inconnu, ce n'est pas de la science, c'est de la recherche. On ne sait pas, on essaye de comprendre. Puis on rajoute une pièce, on se dit, tiens, elle n'est pas au bon endroit, on en met une autre, etc. C'est comme ça qu'on doute. Donc le doute scientifique... C'est pas un doute du sceptique, c'est un doute pour essayer de construire un ensemble cohérent, compréhensible de la science. Alors ça, la science a pris de plus en plus de, je dirais, de surface, de volume, comme vous voulez, et les gens ne la comprennent plus. Donc ils se disent, mais elle ne nous donne pas de résultats quand on lui pose une question. Mais c'est vrai, parce que tout n'est pas explicable par la science. Il n'y a qu'une certaine partie, c'est ce qui est quantifiable qui est explicable par la science. Mais le reste n'est pas explicable. Et donc, ça met de la confusion dans la tête des gens qui ne comprennent pas, qui croient que c'est presque de la sorcellerie et donc qui rejettent l'ensemble.
Mmh. Oui, là, vous soulignez un paradoxe, c'est qu'on devient technologiquement, scientifiquement beaucoup plus puissant, mais intellectuellement plus vulnérable, en fait.
Bah, pas les scientifiques.
Pas les scientifiques.
Vous avez des pseudo-scientifiques qui se mettent dans l'affaire, qui se nomment experts, qui racontent ce qu'ils pensent, mais pas nécessairement ce qui existe. Enfin, on est dans le brouillard parce qu'on perd la raison. Donc, je pense que là-dessus, ce qui est indispensable, c'est à l'école de réapprendre à raisonner. Et surtout à douter, à savoir critiquer correctement les choses. On réapprend sur sa raison, on se forge une raison solide, ce qui n'empêche pas d'avoir de l'imagination, ce qui n'empêche pas d'avoir des sentiments à côté, c'est évident. Mais il faut quand même utiliser cet outil de manière utile. Enfin, oui, utile.
Ça, on va reparler juste après. On peut perdre la raison de plusieurs façons. Dans notre époque, quelle est aujourd'hui, selon vous, la principale menace à notre rationalité ?
Bah, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire c'est soit la rationalité se délite, soit elle se sclérose. Alors en fait, quand on revoit les philosophes, on se rend compte que bon, le grand philosophe, à mon avis, de la raison, c'est Kant. Bon, bien sûr, avant, il y avait eu Descartes, il y a eu Spinoza, il y a eu Leibniz, il y a eu des tas de gens qui sont sur la raison. Mais Kant a vraiment été, avec ses deux livres, les deux principaux qui sont la critique de la raison pure et la critique de la raison pratique, où il a bien séparé la raison pure, qui est au fond la raison de la connaissance du monde, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire la connaissance scientifique, avec une raison où l'arbitre, c'est la mesure, c'est la quantification, c'est le fait qu'on peut mettre des chiffres. Kant a bien séparé ça de la raison pratique, qui est la raison pour agir, où l'arbitre n'est plus la mesure, n'est plus chiffré, mais où l'arbitre est l'homme lui-même. Et donc, quand l'homme lui-même devient arbitre, alors il fait jouer tout ses capacités, et en particulier ses capacités émotionnelles, ses capacités imaginatives. Et ça nous donne une autre raison. Et c'est cette raison-là qui, en mélangeant à la fois l'émotion et la raison, donne quelque chose qui est trouble.
Alors la bonne nouvelle, c'est que la rationalité, vous dites, elle n'est pas innée, elle s'acquiert, elle s'exerce comme un muscle. Alors qu'est-ce que vous préconisez en tant que physicienne et aussi philosophe aux citoyens désorientés ?
Ben, tout d'abord, je leur conseille de prendre le temps de penser, de s'arrêter un peu dans l'agitation fébrile et de prendre le temps de penser. D'ailleurs, on le ressent, puisque maintenant, on dit qu'il ne faut plus que les enfants soient sur les réseaux sociaux, il faut éviter de mettre trop de temps devant l'ordinateur, alors que bon, pour certains, l'ordinateur est un outil, comme pour moi. Parce que le fait d'avoir mis sur les réseaux sociaux tous les avis possibles de l'humanité entière, si je puis dire, ça donne une confusion totale. C'est comme si vous aviez un ensemble énorme de boîtes ou de choses, ou de même de connaissances, et qu'elles ne soient pas triées. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est que les gens soufflent un peu et se mettent à réfléchir et surtout à douter. Mais pas un doute sceptique, comme j'ai dit, un doute profond.
Pour revenir sur ce livre, l'Odyssée de Lucas, il nous apprend à reprendre le contrôle
de nous-mêmes.
De nous-mêmes, de notre rationalité. Le format du livre est assez original. C'est pas un essai, c'est pas un roman, c'est une sorte de récit hybride dans lequel vous mettez en scène le personnage de Lucas. Je voulais m'arrêter sur le choix du prénom. Lucas, c'est pas un choix anodin.
Non, c'est pas un choix anodin, puisque Lucas, c'est au fond l'acronyme de Last Universal Common Ancestor.
Alors qu'est-ce que c'est ?
Qui veut dire l'ancêtre commun à l'arbre phylogénétique. C'est-à-dire qu'en fait, on a un arbre phylogénétique qu'on a à peu près retrouvé, qui commence, on ne sait pas où, mais on sait qu'en le descendant, on voit comment les branches sont agencées, et on est parti d'une cellule. Mmh. Une des choses que l'on ne connaît pas en biologie, c'est comment fabriquer une cellule. On sait fabriquer des tas de molécules, mais la cellule, exactement, on ne sait pas encore. On n'a pas encore trouvé la solution. On la trouvera, mais pour l'instant, on n'est pas. Et donc, cette cellule qui se reproduisait par scission,
en se divisant,
elle s'est divisée donc en deux branches. Une branche qui a donné les bactéries, qu'on a toujours des bactéries, et une branche qu'on appelle les acnées, qui existe toujours. On a toujours des cellules comme ça. Et c'est cette branche-là qui ensuite a donné une branche qui a donné des cellules eucaryotes, c'est-à-dire des cellules avec noyau. Les deux premières n'avaient pas de noyau. Mm-hmm. Et donc, dans les noyaux, vous aviez les chromosomes et vous avez toute la reproduction qui s'est faite différemment. Donc, en fait, c'est cette cellule que l'on ne connaît pas qui est la dernière que l'on a pu trouver avec la vie que l'on a aujourd'hui sur Terre.
Oui.
Et on l'a appelée, lors d'un colloque, avec un acronyme LUCA.
Et on pourrait situer à peu près le moment où cette...
4 milliards d'années.
Donc, d'où ce choix du prénom LUCA. Et LUCA, ce personnage, il traverse tous les âges de la vie.
Alors moi, j'ai fait justement dans le livre le double parallèle, c'est-à-dire le temps très très long, où LUCA, quand il commence à comprendre qu'est-ce que c'est que sa raison, il s'est reporté au temps des philosophes qui essayaient de comprendre qu'est-ce que c'est que la raison humaine. Donc on a ce passage entre les deux temps, le temps d'une vie. Enfin, Lucas, dans le livre, on commence par son anniversaire de l'âge de raison, 7 ans. Et puis on va jusqu'à une trentaine d'années, l'âge d'un jeune d'aujourd'hui. Et de l'autre côté, il s'est replongé dans le passé pour essayer de comprendre comment ses prédécesseurs ont compris la raison.
Il y a plusieurs temporalités et c'est ça qui fait toute l'originalité de cet ouvrage. Et alors, vous invoquez... Parmi les penseurs du passé, notamment Platon, Galilée, Descartes, ils agissent un peu comme des phares pour Lucas.
Oui, alors évidemment, un être tout seul, isolé, ne pourrait pas faire... Le génie solitaire n'existe pas. Quelqu'un qui est isolé quelque part, il n'aura pas le temps, il n'aura même pas l'imagination. Il faut qu'il y ait un accrochage entre les humains pour essayer d'avancer dans la pensée. Donc j'ai commencé, alors j'ai parlé un peu des pensées plus primitives que celles de Platon, mais après j'ai commencé avec Platon parce que Platon a été le premier philosophe à séparer la mythologie de la philosophie. Et c'est-à-dire qu'en fait, il n'aimait pas Homère parce qu'il trouvait que Homère mélangeait le réel et l'imaginaire, ce que nous faisons d'ailleurs aujourd'hui sans arrêt, nous mélangeons toujours le réel avec le virtuel maintenant, mais c'est la même chose. Et donc, Platon a séparé les deux en disant la mythologie, c'est de la poésie, c'est très bien, c'est de l'imagination, mais il faut mettre de la raison, de la logique, etc. Et évidemment, Aristote, après, a mis ça en norme et il a dit, mais il faut vraiment se rapporter au réel plutôt que d'être toujours dans la pensée, parce que Platon avait plutôt le monde des idées et le monde de réel, et Aristote a un peu clarifié le monde réel. Donc ça, c'était vraiment les grands penseurs de la philosophie grecque. Ensuite, sont arrivés, je dirais, 2000 ans plus tard, Descartes et Galilée, qui sont deux figures très importantes de notre raisonnement. Descartes, parce que pour lui, la raison était suffisante pour comprendre le monde, et que Galilée, la raison n'était pas suffisante parce qu'on ne peut pas être son propre arbitre. Et donc, il avait déjà compris ça. Et là, on a vu la séparation entre la philosophie et les sciences exactes. Et donc, ça a donné ensuite la suite et le démarrage de la science exacte avec la physique. Ensuite, on a eu Lavoisier qui a fait au tournant du 19e siècle la chimie qui est devenue une science exacte, et puis ensuite maintenant la biologie. Donc on a ces trois piliers scientifiques qui sont mesurables, qui sont quantifiables. Et donc c'est ça les grands points, je dirais, de la compréhension de la raison. Et aujourd'hui, on est dans un monde où la raison, je dirais, les sciences exactes vont faire tellement de progrès à la fois de compréhension et de technologie que les gens ne l'ont pas assimilé. La population qui ne l'a pas travaillé ne l'a pas assimilé. Et ça donne le mélange. Et c'est comme si c'était un retour en arrière où on mélange le virtuel et le réel.
D'où l'importance de convoquer ces... Bah, là, on a parlé de trois piliers, Platon, Galilée...
Oui, mais il y en a beaucoup d'autres.
Mais vous en citez beaucoup d'autres. Mais d'ailleurs, dans les conseils que vous donnez à Lucas, il y en a un qui vous semble plus vital que d'autres, parce que, en fait, chacun de ces penseurs apparaît à un âge de la vie. Voilà, Platon apparaît dès l'enfance, et au fur et à mesure qu'il grandit, vous faites apparaître une figure
du
passé.
Oui, parce que je trouve que, justement, on doit apprendre, on doit transmettre pour les générations futures. Et donc, on ne peut le faire que si on a assimilé. Et cette assimilation, dans la vie d'un individu, elle est en raccourci par rapport à la vie de l'humanité. Donc, c'est un peu ça que je voulais montrer dans le livre. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, quand vous commencez la philo au lycée, vous commencez par les Grecs.
Mais vous pourriez donner un exemple de situation que vous citez dans le livre auquel Lucas se retrouve confronté ?
Il rencontre différentes difficultés. Bien évidemment, je parle de tous les excès qui sont actuellement aujourd'hui, le fait de vouloir se transformer, de transformer l'homme et donc d'utiliser de la technologie pour le rentrer dans l'humain. Il rencontre effectivement, comme tout le monde, qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle ? Et là, il se rend compte que l'intelligence artificielle, elle est très utile, mais que les mots utilisés par l'intelligence artificielle sont des mots vides de sens. C'est comme si vous avez des godets mis les uns à côté des autres. Ça fait des jolies phrases, mais ça fait des jolis chemins, mais c'est, y a pas de sens. Et c'est vous qui mettez le sens dans le mot. Et c'est exactement la même chose que quand vous parlez à quelqu'un, quand vous utilisez un mot que quelqu'un ne comprend pas, il imagine le sens du mot et il peut imaginer le sens du mot de travers. Et c'est la même chose quand l'intelligence artificielle, l'AI, vous dit, vous donne des mots ou des phrases ou des choses qui sont très bien construites, c'est vous qui mettez du sens dans les mots. C'est pas la machine qui vous a mis le sens. Donc chacun lit cette phrase avec sa propre compréhension. Donc qu'est-ce que c'est que comprendre ? Donc il commence à se poser la question, qu'est-ce que c'est que comprendre ? Qu'est-ce que c'est que transmettre ? Et au fond, quand vous voyez, par exemple, quand vous demandez à l'AI de vous faire un dessin, c'est pour ça que j'ai repris l'histoire du Petit Prince, dessine-moi un mouton. Mais non, mais ça, c'est pas un mouton, ça, c'est pas le mouton. Et parce que lui imagine dans sa tête un mouton, comme il a envie de l'avoir, et que l'autre lui fait un mouton comme il pense être un mouton. Donc, en fait, c'est ça que vous faites quand vous travaillez avec l'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle, l'AI, ça, c'est très utile pour les classements de données, les bibliographies, tout ce que vous voulez, tout ce qu'on lui a mis en mémoire, elle est capable de remettre de l'ordre, parce qu'elle a un ordre algorithmique, donc l'ordre, c'est facile, elle vous sort l'ordre, et vous, ça vous fait gagner énormément de temps. Mais pour la compréhension, ce qui est très intéressant, c'est de voir que c'est vous qui comprenez avec vos propres connaissances ce que l'IA vous dit. Et ça, c'est fondamental pour la suite. Et donc, et c'est pour ça que j'aime bien cette phrase que Lucas a quand il rencontre son prof à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, quand il lui dit « Quand on voit ce qu'on voit et qu'on sait ce qu'on sait, on a bien raison de penser ce qu'on pense. » Et petit à petit, il commence à essayer de penser qu'est-ce que ça veut dire, penser ce qu'on pense. Alors, il repense à Kant, qui se dit « Tiens, il faut penser par soi-même. » Oui, mais si tu penses par toi-même, tu as un ego beaucoup trop énorme. Donc, il faut aussi penser qu'est-ce que pensent les autres. Enfin, donc, il réfléchit à toutes ces questions-là au fur et à mesure. Et donc, il appelle différents philosophes.
Nous sommes des nains sur les épaules des géants, pour reprendre cette phrase philosophique. Mais écoutez, merci beaucoup. Je rappelle que l'Odyssée de Lucas face au naufrage de la raison est disponible aux éditions du Cerf, à la librairie de l'Institut, bien évidemment, mais dans toutes les autres bonnes librairies. Nous mettrons le lien sur la page de l'émission de l'Envie de Savoir. Merci Catherine Bréchignac.
Merci.
Les podcasts de l'Institut de France.